Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud.
C'est quand même très important que les femmes puissent maintenant oser dire, comme elles n'osaient pas dire avant le viol, maintenant un grand nombre, pas toutes, mais un grand nombre osent dire le harcèlement.
La violence sournoise, mais totale, que l'on subit ici, dans les usines, tout cela maintenu au nom de l'économie, est en réalité une mise en esclavage.
Une mère célibataire, même après la naissance de son enfant, reste sous la tutelle de ses parents.
C'est une règle des droits de l'homme que précisément les hommes doivent aider les autres hommes.
Sartre et Beauvoir, ils forment le couple d'intellectuels iconiques du XXe siècle. Ils ont révolutionné la philosophie et le féminisme. Guerre d'Algérie, guerre du Vietnam, révolution cubaine. Ils ont aussi été de tous les combats politiques entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1970.
C'est que je suis un intellectuel et que voilà, un siècle, l'alliance du prolétariat et des intellectuels a existé et qu'elle représentait une force considérable. Il faut que les intellectuels et les ouvriers s'unissent.
Mais Sartre et Beauvoir, c'est aussi un couple qui a forgé une vision moderne de la relation conjugale.
Et la liberté sur laquelle on a beaucoup glosé entre deux, c'était quelque chose de réel ou c'était quelque chose qu'on a exagéré a posteriori ?
Oh non, c'était quelque chose de tout à fait réel. Et elle savait à peu près tout ce que Sartre faisait.
À travers les relations passionnelles et parfois tragiques de ces deux philosophes engagés, nous allons nous replonger ensemble au cœur des grands moments du siècle dernier dans une série spéciale en 4 épisodes émaillée d'archives Europe 1. Sartre et Beauvoir existaient ensemble. Dans le premier épisode de cette série spéciale consacrée à Sartre et Beauvoir, les deux philosophes en herbe nés dans la haute bourgeoisie ont obtenu l'agrégation. L'été suivant, Sartre demande Beauvoir en mariage, mais elle refuse. Elle ne veut pas d'une vie bourgeoise et voit le mariage comme une prison. Un drame va la convaincre de fuir définitivement les conventions. Épisode 2. Les années libertines. ...1929 n'est pas que l'année de l'agrégation. C'est aussi celle d'un deuil impossible. Zaza, la meilleure amie de Simone, est tombée amoureuse de Maurice Merleau-Ponty. Mais la famille de Zaza s'oppose à une union avec un homme de condition inférieure. Peu de temps après cette peine de cœur, Zaza attrape une méningite et meurt à l'hôpital de Saint-Cloud.
Peut-être faut-il lire ou relire dans les mémoires d'une jeune fille rangée l'histoire de son émancipation, où elle raconte la mort de Zaza.
Yvan Lévaille, journaliste.
Zaza, son amie, qu'elle voit, morte, à la clinique, dans une longue chemise de nuit en toile rêche et dont elle dit qu'elle lui est souvent apparue la nuit, jaune, sous une capeline rose, pour la regarder avec reproche. « Ensemble, écrit Simone de Beauvoir, nous avions lutté, Zaza et moi, contre le destin fangeux qui nous guettait, et j'ai pensé longtemps que j'avais payé ma liberté de sa mort. »
Cette mort prématurée terrasse Simone. Elle est convaincue que ce sont les conventions bourgeoises qui asphyxient les femmes qui ont tué indirectement Zaza. Il lui faut donc écrire pour émanciper les femmes. Ce sera l'un des grands projets de Simone. Mais pour le moment, elle n'est pas prête à écrire. Elle rature sans cesse des feuilles à demi blanches. Elle n'a pas la plume facile comme Sartre qui écrit comme il parle. D'ailleurs, Sartre ne va pas beaucoup avoir le temps d'écrire dans les prochains mois. Il doit faire son service militaire. Moi, quel pince-somme pour un antimilitariste comme lui. Mais avant de quitter Simone, il veut s'assurer qu'il forme un vrai couple. Un jour d'octobre 1929, il lui donne donc un rendez-vous sur l'un des bancs de pierre des Tuileries et lui propose un pacte. Un bail amoureux de 2 ans. Ils seront l'amour nécessaire l'un de l'autre, le vrai couple. Mais ils auront des amours contingentes, des toquades, des passades, des flirts. Et oui, on ne peut pas être écrivain sans vivre, sans éprouver dans sa chair toutes les passions de l'humanité. La seule règle, tout se dire.
Et la liberté sur laquelle on a beaucoup glosé entre deux, c'était quelque chose de réel ou c'était quelque chose qu'on a exagéré a posteriori?
Oh non, c'était quelque chose de tout à fait réel. Et elle savait à peu près tout ce que Sartre faisait.
Et lui aussi, il savait?
Oui.
Annie Cohen-Solal, écrivain.
Oui, ils étaient au-delà de tout ça. Ils avaient négocié leur histoire affective. On a négocié entre guillemets. Ils avaient pris un bail de 2 ans, comme ils disent. Ils se voyaient tous les jours. Ils n'ont jamais eu de véritable séparation. Ils se voyaient tous les jours. Et tous les jours, ils parlaient. Et tous les jours, ils partaient en vacances ensemble, etc. Je veux dire, ça a été, si vous voulez, la relation féminine centrale de la vie de Sartre toute sa vie.
Simone accepte. Ce pacte la délivre définitivement de l'amour conjugal bourgeois. À partir de ce moment, Sartre devient le maïoticien de l'écrivaine Beauvoir. Il est son mentor, son soutien, son critique. En retour, elle est son premier lecteur, impitoyable, et elle le materne aussi. Un fils à maman comme Poulou reste un fils à maman toute sa vie.
Pendant plus de 50 ans, Simone de Beauvoir a été, pour Sartre, l'interlocuteur intellectuel privilégié. Elle a été son éditeur, celle qui relisait chacun de ses textes. Et en même temps, elle a diffusé l'œuvre de Sartre. Elle en a beaucoup parlé. Elle en a beaucoup parlé dans ses livres. Elle en a beaucoup parlé autour d'elle. Elle l'a même repris, les idées de Sartre, dans ses œuvres. Enfin, donc elle a eu plusieurs fonctions extrêmement importante par rapport à la diffusion de l'œuvre sartrienne. Et lui a fourni des outils conceptuels. C'est lui qui l'a poussé à écrire le deuxième sexe. On ne sait pas assez que Sartre lui dit, mais écrivez donc sur la condition féminine.
Le pacte a l'air sublime, mais à l'usage, il va se révéler beaucoup plus douloureux qu'il ne l'est en théorie. Nous sommes maintenant en 1936. Sartre, qui voulait un poste au Japon après son service militaire, se retrouve au Havre. Après avoir enseigné à Marseille et à Rouen, Beauvoir, quant à elle, obtient un poste à Paris. Beauvoir est une professeure charismatique. Ses élèves boivent ses paroles et l'admirent. Elle a même de l'emprise sur certaines d'entre elles. À Rouen, elle subjugue d'ailleurs une de ses petites élèves, une petite Russe intelligente nommée Olga Kozakiewicz. Lorsque Simone identifie une jeune fille brillante et un peu perdue, elle la prend sous son aile, lui donne des rendez-vous privés, puis la met dans son lit. C'est pour suivre sa professeure que la toute jeune Olga, à peine majeure, emménage à Paris. Elle est maintenant l'amour contingente de Beauvoir. Sartre en est fou, lui aussi. Il fait tout pour la séduire. Ses rapports avec Olga sont très ambigus et aujourd'hui, on dirait clairement malsains. Et cette ambiance de jeux amoureux croisés monte d'un cran quand Vanda, la sœur d'Olga, entre dans l'équation. Tout ce petit monde flirte et couche ensemble. Dans sa correspondance avec le castor, Sartre évoque ses jeux amoureux avec les deux jeunes filles. Elles sont à l'évidence pour eux de jolis jouets au service de leurs désirs et de leur couple libre. Tenez, le 4 janvier 1940, par exemple, Sartre écrit à Beauvoir au sujet de Vanda.
« Je vais maintenant lui écrire. » Elle n'a jamais tant aimé. Pour moi, je me sens toujours de bois.
Finalement, Olga épouse un ancien élève de Sartre, Jacques-Laurent Bost, avec qui Beauvoir a une liaison en simultané, et de l'autre côté, la passion de Sartre avec Vanda connaît des hauts et des bas. En 1938, une autre élève de Beauvoir est subjuguée par sa belle professeure au regard si vif. Elle s'appelle Bianca Bienenfeld. Elle est juive polonaise et elle a 16 ans. Elle devient bientôt la petite maîtresse du couple de philosophes. Sartre rompt avec Bianca par lettre en 1940, en plein pendant la guerre. Bianca est aux abois dans un Paris occupé par les nazis. Elle hésite entre se suicider ou épouser un Américain pour fuir la France. Sur le coup, Beauvoir s'amuse de la détresse de la jeune femme avec une froideur révoltante dont elle finira par avoir honte à la fin de sa vie. Cet imbroglio de relations mêlées est alors perçu comme le premier cercle de Sartre et Beauvoir, de jeunes intellectuels qui gravitent autour d'eux. La réalité est plus sordide. Bien plus tard, après la publication de la correspondance de Sartre et Beauvoir dans les années 1980, Olga et Bianca se rendront compte qu'elles ne représentaient pas grand-chose pour le couple. Olga considérera qu'ils étaient tous et toutes hypnotisés par le couple, fascinés par leur intelligence et flattés d'être leurs proches. Bianca publiera dans les années 1990 sa version lucide des amours contingentes du couple dans ses mémoires d'une jeune fille dérangée. Pour bien comprendre les choses, écoutez un peu les mots de Bianca.
Pour la première fois, et après avoir longtemps hésité, j'ai décidé de rapporter ce qui, dans ma vie, a été un drame. Si mon histoire n'est pas banale, cela tient sans doute à la personnalité de deux de ses protagonistes, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Ensemble, nous formions un trio, ou du moins, c'est ainsi qu'on m'avait présenté les choses. Je me rends compte à présent que j'ai été victime des impulsions donjuanesques de Sartre et de la protection ambivalente et louche que leur accordait le castor.
Eh oui, la vérité, c'est que Beauvoir déteste les trios. Elle supporte mal la présence des jeunes femmes qu'elle introduit elle-même auprès de Sartre. Aujourd'hui, leur comportement avec les jeunes femmes gêne leurs admirateurs aux entournures. Beauvoir espérait sans doute secrètement garder la main sur les amours contingentes de Sartre en les choisissant elle-même. Elles ont d'ailleurs toutes le même type. Ce sont des jeunes filles de l'Est, intelligentes, mais fragiles et impressionnables. Mais un événement va l'obliger à être beaucoup plus prudente et à éviter les amantes trop jeunes. En 1939, Beauvoir séduit une autre de ses élèves, la jeune Nathalie Sorokine, 18 ans. À cette époque, la majorité est à 21 ans. Au début des années 1940, la mère de Nathalie découvre la liaison de sa fille avec le couple. Elle y met immédiatement le holà et porte plainte. Voici un extrait de sa déposition.
J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les faits suivants. Déposant plainte contre Mademoiselle de Beauvoir, professeure agrégée de philosophie au lycée Camille C, pour avoir abusé, en sa qualité de professeure de ma fille mineure, Sorokine Nathalie, née le 18 mai 1921 à Constantinople, et avoir commis le délit d'excitation de mineure à la débauche.
Suite à une enquête du rectorat, Simone de Beauvoir est suspendue de l'éducation nationale en 1943. On prétend parfois que Beauvoir est congédiée par le régime de Vichy parce qu'elle n'est pas assez patriote. C'est faux. C'est bien une affaire de mœurs qui lui vaut une exclusion de l'éducation nationale. Toujours est-il que Beauvoir doit gagner de l'argent. La Seconde Guerre mondiale n'est pas terminée et elle a l'habitude d'acheter certains produits rares comme du thé au marché noir. C'est donc très cher. Sartre n'apprécie pas ça. En 1940, il était réquisitionné sur le front et il a été fait prisonnier en Allemagne. Il passe près d'un an dans le Stalag 12D, près de Trèves. Là, cet individualiste forcené découvre la camaraderie et la solidarité. Pour lui, ça donne du sens à la notion de collectif et ça change radicalement sa façon de voir le monde. Voilà pourquoi, une fois libéré et de retour à Paris en 1941, il n'aime pas l'idée que son castor se fournisse au marché noir. Il vaut mieux faire comme tout le monde. Pour qu'elle puisse travailler et continuer à gagner sa vie, il l'aide à trouver un poste à la Radio Nationale.
État français, Radiodiffusion Nationale.
Le surnom de cette station est Radio Vichy. Elle écrit des textes pour une émission hebdomadaire intitulée « Les origines du music hall ». Là, il faut qu'on fasse une pause très sérieuse pour parler de la radio pendant l'occupation.
Comme si elle songeait que s'approche l'anniversaire de Merzel-Kébir. C'est sur les côtes nord-africaines qu'elle entreprenait une incursion.
Radio Nationale est une station généraliste qui émet entre 1940 et 1944, c'est-à-dire qu'elle apparaît sous la France occupée et qu'elle disparaît avec elle. À ce moment-là, les nazis qui occupent la France surveillent tous les moyens de radiodiffusion du pays, y compris en zone libre. Cette radio voit donc le jour avec l'accord des Allemands. Bah évidemment, dans un tel contexte, même si elle émet depuis le casino de Vichy, la station ne peut être que pro-pétainiste, mais aussi sympathisante du nazisme. L'autre grande radio au nord, en zone occupée, c'est Radio Paris. Cette station existait avant la guerre, mais elle devient très clairement la radio de propagande nazie en zone occupée. Parmi les collaborateurs de cette radio de propagande, nous avons les chanteurs Tino Rossi et Maurice Chevalier, les stars de l'époque, et à la direction de l'orchestre, Jo Bouillon, qui a été un temps le mari de Joséphine Baker, qui elle, rappelons-le, était résistante. Radio Londres, la radio de la résistance de De Gaulle, fait d'ailleurs son possible pour brouiller les ondes des stations des collabos. La radio est alors le nerf de la guerre de la communication. Bon, vous l'aurez compris, En ce qui concerne Simone de Beauvoir, écrire pour Radio Vichy, ce n'est pas reluisant, mais c'est pas Radio Paris non plus. Et elle a fait ce qu'elle pouvait pour gagner sa vie dans un contexte de crise. On ne peut décemment pas lui faire de reproches sur ce point. De même, il est difficile de reprocher à Sartre d'avoir pris le poste d'un professeur de philosophie juif renvoyé d'un lycée parce que les lois antisémites de Vichy empêchaient les personnes de confession juive de travailler dans la fonction publique. En cette année 1943, en plein pendant la guerre, Beauvoir publie son premier roman chez Gallimard, L'Invité. Il évoque son ménage à trois avec Sartre et Olga. Le livre est pressenti pour le Goncourt, mais il ne l'aura pas. De son côté, Sartre publie son troisième livre, L'être et le néant. C'est le premier grand ouvrage de Sartre qui pose ses propres principes philosophiques. Il commence à être reconnu comme l'un des théoriciens de l'existentialisme. Ce n'est pas lui qui invente ce concept, mais c'est lui qui lui donne toute son ampleur. Dans l'existentialisme, l'être humain est défini par ses actions. Il en est aussi responsable. C'est même en cela qu'il est libre. Mais il doit aussi savoir se remettre en question et composer avec l'autre, l'autre représentant l'altérité et une autre liberté individuelle. Cet existentialisme devient même un style de vie dans le quartier branché de Saint-Germain-des-Prés. Les hommes existentialistes se reconnaissent à leur trench coat et les femmes à leur col roulé noir et à leur trait de eyeliner sur les yeux. Les existentialistes écoutent aussi du jazz. Bref, ils sont tellement classe.
Le vieux Colombier est plein ce soir, plein de fanatiques de jazz comme on peut s'y attendre bien entendu. Ces fanatiques sont les mêmes que ceux qu'on pouvait y voir il y a 7-8 ans.
Ah, je sens que certains d'entre vous se découvrent existentialistes. Bref. Lorsque la guerre s'achève en 1945, le philosophe Jean-Paul Sartre est devenu l'un des intellectuels les plus en vue de l'après-guerre.
Jean-Paul Sartre, pour qui écrivez-vous? Pour qui croyez-vous écrire?
Vous savez, je pense que tous les écrivains voudraient écrire pour tout le monde. La difficulté n'est pas là. Il est évident que quand on fait une œuvre philosophique, on écrit dans un certain jargon, qu'on a hérité d'ailleurs, que l'on n'invente pas. Et on ne s'adresse par conséquent qu'à des spécialistes. Quand on écrit une pièce de théâtre, personne ne pense limiter le public en disant c'est pour ceux-là ou pour ceux-ci. Le malheur, c'est que les limitations ne viennent pas des pièces elles-mêmes, mais de beaucoup d'autres choses.
Beauvoir, quant à elle, commence à se faire un nom, mais elle reste encore dans l'ombre de son conjoint. Certains la surnomment même la grande sartreuse. Mais Simone s'en fiche, elle sait ce qu'elle vaut. D'ailleurs, c'est au sortir de la guerre que Sartre et Beauvoir vont décider d'avoir un bébé. Pour découvrir la suite de ce récit exceptionnel en 4 épisodes, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt.